Les voies de service, mercredi 8 août 2018. Bonjour, bienvenue aux voies de service. Isabelle Falardeau au micro, accompagnée aujourd'hui de Daniel Lachance.
Bonjour.
Et de Serge Bradet.
Bonjour, bonjour. Bonjour.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne dont j'avais jamais entendu parler. En fait, c'est souvent ce que je fais avec vous. Je vous parle de quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler, mais qui est une personne...
On a de la difficulté à prononcer le nom.
Non, cette fois-ci, c'est ça, j'ai choisi parce que justement, son nom est super facile à prononcer. Mais c'est quelqu'un, une personne des Premières Nations, ça va bien vraiment ce matin, qui a reçu l'Ordre du Canada, qui est quand même une très haute distinction. Et je vais aussi vous parler de l'accessibilité des soins de santé pour les communautés autochtones. Et en histoire, Serge, de quoi on va parler?
Le mégalodon, ça vous dit-tu quelque chose?
C'est un dinosaure, ça, avec un nom de même.
Je vais vous parler de ça, le mégalodon. Surprise, surprise, surprise. Et c'est dans la Presse Plus de dimanche. Et lundi, il y avait un article dans la Presse Plus également sur une lettre manuscrite de Champlain. Et apparemment, c'est très rare parce que Champlain avait un secrétaire qui écrivait...
Donc, c'est pas lui qui écrivait ses lettres, c'est il les signait simplement.
Oui, et il y a probablement qu'il en a écrit beaucoup, mais là... De ce qu'on a conservé, il y en aurait seulement deux apparemment, donc celle-là qu'on vient de retrouver, parce qu'on l'avait déjà trouvée, mais là on l'a retrouvée de nouveau, dans un musée. Ouais.
D'accord, merci beaucoup. Et Daniel?
Eh bien, en première partie,
je me demande bien si vous allez nous parler de Félix Leclerc.
Bon, ça y est.
J'ai entendu parler que ça faisait 30 ans qu'il était...
ça se pourrait.
Non, on en parle un petit peu ce matin à la radio.
Ben, je vais vous en parler ce matin, en première partie.
Excellent.
Et
idée.
En deuxième partie, je vais vous parler de Paul McCartney.
Il est pas mort.
Ou celui qu'on pense qui est Paul McCartney.
Ah,
on verra.
Oh, une théorie du complot. J'adore ça. Et on vous laisse tout de suite commencer, Daniel.
Oui, étant donné que vous avez brûlé le punch, on est tous bien d'y aller tout de suite avec ça. C'est un article que j'ai trouvé sur le site icimusique.ca, que vous connaissez sûrement.
Mm-hmm.
Le titre « Félix Leclerc, 1914-1988, c'était un grand bonheur ». Pour souligner le 30e anniversaire du décès de ce patriarche survenu le 8 août 1988, donc 30 ans aujourd'hui, promenons-nous sur le sentier de son œuvre à la rencontre de la nature, de monde fabuleux et de la beauté de la vie. Vous êtes prêts? Félix Leclerc a bercé enfants et adultes et on s'émeut toujours autant de ses chansons. On se ravit encore de ses contes imaginatifs et fantastiques. Avec son regard bleu qui monte la garde, celui que les Québécois ont affectueusement nommé le patriarche a vu loin, a contemplé, a rêvé et a transmis sa fierté. 30 ans après son décès, je vous propose une promenade sur le sentier de son œuvre pleine de candeur. Poète, chansonnier et conteur, sans oublier amoureux des arbres, des cours d'eau et des humains, Félix a chanté la nature et la beauté de la vie. Avec sa belle voix grave et chaude, fluide comme l'eau, il a bercé tout autant les enfants que les adultes. Né le 2 août 1914 à Latuque, Félix Leclerc connaît une enfance heureuse. Il se trouvera une deuxième famille, celle-là artistique, mais tout aussi nombreuse, à Vaudreuil avec son grand ami Guy Moffett et les compagnons de Saint-Laurent. Viendra ensuite l'île d'Orléans, à jamais associée à son nom parce qu'elle sera son lieu d'enracinement. Il y a des maisons où les chansons aiment entrer. La France tombe sous le charme de Félix Leclerc avant le Québec. Le public français s'éprend de « Moi, mes souliers », « Notre sentier » et « Le petit bonheur ». C'est quand même probablement les plus connus.
Oui, effectivement.
L'impresario Jacques Canetti le prend sous son aile en 1950 et son séjour de quelques semaines durera 3 ans.
Ça fait beaucoup de semaines.
Django, le célèbre guitariste dont j'ai toujours eu de la difficulté à prononcer le nom.
Django Reinhardt?
Oui, Reinhardt, c'est comme ça qu'on
prend. Je pense. Ouais, c'est ce que j'entends à la radio.
C'est un Belge, hein? Puis, il est né en Belgique.
Et moi, j'ai pas d'érudition du tout. Je suis juste capable de prononcer les noms.
C'est parce qu'on a souvent tendance à le prononcer à l'américaine, mais il n'est pas américain du tout. Il est venu une fois en Amérique, je pense. Donc, Django Reinhardt lui a montré un piqué de guitare qui déteint sur le sien et qui s'apparente à celui de Georges Brassens. D'ailleurs, la simplicité avec laquelle Félix se présente sur scène influence Brassens. Celui-ci devient un bon ami, tout comme Raymond DeVos. Cependant, au Québec, à la télévision et dans les élites, on porte des cols en pesée et on ne veut pas montrer que l'on est un peuple de bûcherons.
Ouais,
c'est vrai,
ça,
hein, c'est bien. Félix Leclerc sera presque méprisé. Ouais. Sa chemise en laine du pays empêche-t-elle les gens d'apprécier sa poésie? Notre premier troubadour monte sur scène timidement dans des salles de collège, posant le pied sur une chaise en bois avec sa guitare sur la cuisse. Il utilise habilement l'humour pour séduire le public. Attends-moi, Tiga, le pharmacien, le pain et l'assassin, le tour de rein. Des chansons courtes comme de petits entractes. C'est la gaieté qui charme avant le triste sort des personnages. Les Québécois finiront par tendre l'oreille à sa poésie et ne s'en lasseront plus au point de nommer le prix chaque année, le prix remis chaque année par la disque,
le Félix.
Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui reçoivent un Félix, mais ils savent
mais
pas.
Mais il y a beaucoup de gens qui. Honnêtement, je pense pas que mes enfants savent que le Félix. En fait, je sais même pas s'ils savent que ça existe.
Ah ah, faudrait leur dire. Faut leur expliquer.
Mais oui, clairement.
Ses pères l'adorent. Monique Lérac, son amie, le chante avec aisance et plaisir. Mm-hmm. Avec Diane Dufresne, l'admiration est mutuelle. Gilles Vigneault partage les mêmes thèmes, l'amour du pays et de la langue. Ils partagent aussi la scène ensemble avec Robert Charlebois lors du spectacle légendaire de la Super Franco-Fête en 1974 sur les plaines d'Abraham devant 150 000 personnes.
Quand même.
C'est beaucoup, hein?
Ouais.
Ils y chantent leur espoir de voir naître un pays. On titrera cette réunion « J'ai vu le loup, le renard, le lion » qui avait été publié en vinyle à l'époque.
Ouais,
je suis pas
sûr
que c'est encore disponible. Félix Leclerc ne chantera que deux chansons qui ne viennent pas de sa main. La complainte du phoque en Alaska de Beaudommage.
Oui, il l'a chanté,
je ne savais pas. Oui, absolument.
Oui, oui, oui.
Et je me souviens, il y a beaucoup de personnes après qui pensaient que c'est lui qui l'avait écrite. Parce que c'était quasiment impossible que Félix Leclerc chante quelque chose
qu'il avait pas
d'un groupe
lui-même.
De jeunes en plus qui venait d'arriver.
En plus, oui, c'est vrai.
Je me rappelle avoir entendu, le groupe Beaudommage en entrevue qui disait « Si vous savez comment on a été, les deux bras nous ont tombés quand Félix nous a appelés, on a dit « Hey, Félix Leclerc veut chanter une de nos chansons. »
C'est d'ailleurs...
tu dis pas non.
Non, non, non. Puis Michel Rivard avait dit que c'était la plus belle claque dans le dos qu'un artiste peut savoir.
Ouais,
c'est
effectivement.
Incroyable. Donc, il a chanté « La complainte du phoque en Alaska » de Beaudommage et « Ton visage » de Jean-Pierre Ferland. Quelle fierté pour ces musiciens alors tout jeunes. Dans les années... peut-être pas Ferland. Oui, il était encore jeune à l'époque. Dans les années 70, François Dompierre, lui, aura le bonheur de signer plusieurs orchestrations de ses chansons. On le dit, on le sait, souverainiste, sans qu'il ait besoin, durant ses premières années de carrière, de le marteler explicitement. Cependant, au lendemain du référendum de 1980, naît un coup de tonnerre intitulé « L'Alouette en colère », symbolisant la douleur d'une bataille perdue. En 1987, on lui demande de rédiger l'épitaphe de René Lévesque, dont il dira qu'il fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple. Peu de temps après, quand Félix part à son tour le 8 août 1988, le Québec tout entier est en deuil et se sent orphelin. Ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je fais de vieilles pommes.
C'est tellement une belle phrase célèbre.
C'est avec la musique que Félix a apporté la poésie à nos oreilles, car sa substance première réside dans les mots. À ses débuts, il écrit quelques pièces et s'inscrit dramaturge avec le radiothéâtre Dialogue d'hommes et de bêtes, diffusé en 1946 sur les ondes de Radio-Canada, puis Le Petit Bonheur, présenté au Jésus en 1948. Peut-être avez-vous, comme moi, dans votre bibliothèque, « Pieds nus dans l'aube », roman dans lequel Félix raconte ses 12 ans, ou « Le fou de l'île » inspiré par ses voisins. Ses pensées, Félix les a aussi regroupées dans des recueils de poésie, tels « Le calepin d'un flâneur » et « Le petit livre bleu ». C'est ce qui est formidable avec ces petites maximes, qu'on puisse piger dans la sagesse de Félix, comme on choisit un fruit mûr dans le panier. L'œuvre de l'artisan est vaste, chansons, contes, poèmes, scénarios et pièces de théâtre. Un mélange de tendresse, de magie, de gravité et d'humour. Félix Leclerc, un aimant de la vie et de la nature, pose un regard attendri sur les gens simples.
Crée-moi, crée-moi pas, quelque part en Alaska, y'a un phoque qui qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde a lâché ça. Laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Quand le phoque s'ennuie, il regarde son poil qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe, et imagine sa blonde faire chaud. C'est rien qu'une histoire, je peux pas m'en faire à croire, mais des fois j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, je m'ennuie. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands.
La complainte du phoque en Alaska, Félix.
Ah, c'est une belle voix quand même. Et j'avoue, au risque de ne pas être politically correct, que ça n'a pas si bien vieilli que ça, je trouve, comme genre de... Enfin, c'est peut-être moi.
Bon.
En tout cas, je ne sais pas. Je préfère la chanson chantée par Michel Rivard. Mais... voilà. C'est mon opinion et elle n'engage que moi. Maintenant, Serge, vous allez nous parler...
Oui,
de...
le mégalodon.
Ah oui, oui. Est-ce que c'est celui qui se cache dans l'eau puis qui tue tout le monde à la fin de... Ah oh, non, je ne veux pas...
Ça, c'est un film de science-fiction.
Je ne veux pas divulgâcher...
qui vient d'apparaître sur nos écrans.
Ouais. Alors, c'est un article de la presse de dimanche. Enfin, c'est un dossier de Mathieu Perrault. L'énigme du mégalodon. Le mégalodon, c'est un requin de 20 mètres.
Ah, quand même. D'accord. Ouais, c'est quand même gros, ouais. Ça, 20 mètres. Ouais, c'est plusieurs maisons. Hein?
20 mètres, c'est... on connaît tous l'autobus scolaire jaune.
Oui.
Le mégalodon mesurait entre une fois et demie et deux fois un autobus scolaire jaune.
C'est un gros poisson.
Ouais, c'est un gros, gros, gros. Oui. Alors, c'est le prédateur cosmopolite par excellence. Carcharocle mégalodon a hanté les sept mers pendant 16 millions d'années avant de disparaître, voilà, 2 millions d'années, donc pas de danger pour aller vous baigner dans la mer. Aucune baleine n'était trop grande pour lui échapper car il se nourrissait de baleines. Oh. On présume que comme le mégalodon... Oui, comme... oui.
Oui, c'est ça.
On présume que le mégalodon avait un comportement similaire à celui du grand requin blanc, explique Stephen Godfrey, un paléontologue du musée maritime Calvert en Virginie, qui a publié plusieurs études sur le mégalodon. Mais en fait, on sait peu de choses sur ce requin préhistorique. Il était essentiellement fait de cartilage, alors on a des dents et une colonne vertébrale retrouvées en Belgique. On est à peu près certain que ce n'est pas l'ancêtre direct du grand requin blanc, plutôt un cousin. Et on a retrouvé des traces de dents de mégalodon sur des os de différents mammifères marins. Nous avons retrouvé des traces de dents sur des queues de dauphins, ce qui indique qu'il chassait fort probablement parce que s'il avait été uniquement un charognard, il aurait mordu le dauphin au centre de son corps.
OK.
La taille du mégalodon, oui. La taille du mégalodon, estimée à 20 mètres, a été calculée d'après celle de ses dents qui atteignent 17 cm. Ah, c'est bon? 17 cm?
Ça, c'est...
Oui. Le rapport, une dent équivaut à 1/127e du corps. Ça, je ne savais pas ça. Est relativement constant parmi les espèces d'aujourd'hui. Le requin blanc mesure presque 6 mètres avec des dents de 4 cm, donc ce sera la même proportion pour nous, je pense. C'est vraiment le prédateur par excellence, dit M. Godfrey, qui a grandi à Sherbrooke et y retourne souvent pour voir sa famille. Seules les orques sont plus dangereuses. Elles sont plus petites, mais peuvent chasser en groupe, alors que mégalodon était solitaire. Le nombre de dents que possédait le mégalodon, 275.
C'est un peu plus que nous autres.
Hein? Oui, quand même. Hein? Puis avec la grosseur qu'elles avaient, c'était quand même assez dangereux, probablement. Ouais.
Comment a-t-il disparu? Bon, plusieurs hypothèses tentent d'expliquer l'extinction du mégalodon. Étant donné sa taille, l'animal avait probablement une certaine capacité d'endothermie, c'est-à-dire qu'il était capable de vivre en eau froide tout en maintenant ses organes à une température supérieure, selon Michel Godfield, paléontologue à l'Université de Michigan. Mais sa capacité d'adaptation avait certainement des limites, et son extinction coïncide avec un refroidissement des océans, avec le début des ères glaciaires du Quaternaire, voilà 2,6 millions d'années. Mm-hmm. Catalina Pimiento, paléontologue à l'Université de Swansea au Pays de Galles, en est moins sûre. Nous avons fait une analyse de toutes les dents et autres traces de mégalodon, et il ne semble pas avoir été sensible à la température de l'eau, dit Mme Pimiento. L'avènement des glaciations du Quaternaire a de toute façon été accompagné de changements du niveau de l'eau, de la salinité, du pH et de la composition en plancton et en proie. Je pense qu'il faut regarder là plutôt que simplement la température. La faute en serait-il à l'isthme de Panama? Parce qu'à un moment donné, c'était ouvert, l'isthme de Panama, avant qu'il y ait le canal, ça a été fermé. La fermeture de l'isthme de Panama est souvent associée à la disparition du mégalodon. Selon une thèse souvent citée, la consolidation de cette bande de terre entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique il y a un peu moins de 3 millions d'années, à quelques années près, a changé la circulation océanique et provoqué les glaciations du Quaternaire. Mais depuis quelques années, de nouvelles analyses de sédiments marins et de l'évolution d'une espèce de fourmi ont amené plusieurs équipes de paléontologues à estimer la fermeture de l'isthme de Panama à 10 millions d'années.
Pas mal plus
et donc,
précis.
Ça pourrait pas être la cause, puisque mégalodons étaient là il y a 6 millions, c'est ça que vous avez dit?
Je pense que ça montre bien que la disparition du mégalodon est bien plus compliquée qu'une question de température d'eau, dit Mme Pimiento.
On peut l'imaginer.
Une autre possibilité pour expliquer la disparition du mégalodon est l'apparition du grand requin blanc et de l'orque. Ils ont peut-être commencé à chasser les petits mégalodons, qui jusqu'alors n'avaient pas de prédateurs, dit Stephen Godfrey. L'orque, puisqu'elle chasse en groupe, s'est peut-être même attaquée au mégalodon adulte. Au cœur de cette hypothèse est l'existence de pouponnières de mégalodons. Il s'agit d'endroits où les requins se retrouvent avec leurs petits pour se protéger des prédateurs. Catalina Pimiento a décrit en 2010 la seule pouponnière connue du mégalodon au Panama. Mais Stephen Godfrey estime que Mme Pimiento se basait sur un nombre trop réduit de fossiles et que le mégalodon n'avait pas de pouponnière, ce qui l'a rendu plus vulnérable aux grands requins blancs et aux orques. ou la migration des baleines. C'est la dernière hypothèse quant à l'extinction du mégalodon, est la modification des habitudes des grandes baleines. Elles sont devenues plus grandes, avec une capacité de faire des migrations très grandes pour la reproduction. À peu près au moment de la disparition du mégalodon, explique Michel Gottfried. Ah. Oui. C'est ça, de M. Gottfried, qui était le prédécesseur de M. Gottfried au musée maritime Calvet, et y a aménagé l'une des quelques reproductions de squelettes de mégalodon du monde. C'est assez impressionnant à voir. Là. Il se peut que le mégalodon ne soit pas parvenu à abandonner son habitat côtier pour poursuivre ses projets. Les leçons du mégalodon, en conclusion, pourquoi étudier le mégalodon? Ben, plusieurs études montrent que plus un prédateur est grand, plus sa disparition perturbe un écosystème, dit Catalina Pimiento. Mm-hmm. On voit actuellement une chute importante du nombre de grands requins prédateurs. Ça fait augmenter le nombre de prédateurs plus petits, notamment les raies, et certaines espèces plus basses dans la chaîne alimentaire, notamment les crustacés, notamment les crustacés périclites. Je m'intéresse au rôle du mégalodon dans son écosystème préhistorique. Regardez la bouche du mégalodon. Là. M'a levé mon hippopade. Regardez ça.
OK. OK, il y a un monsieur qui est carrément assis dedans, puis il y a toute la moitié de la bouche qui dépasse encore.
Ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 7 à l'intérieur. 4, 5, 6. Ils sont 7 à l'intérieur du mégalodon.
Même Jean-Sébastien. On n'a pas envie de se mettre la tête là. Hein?
Non, pas tout. Non, pas du tout, du tout.
Donc, si on résume, c'est soit le refroidissement, soit que leurs bébés se sont fait attaquer parce qu'ils n'étaient pas protégés dans des
poignards,
ou soit parce que leur alimentation s'est déplacée et qu'ils n'étaient pas capables de les suivre.
Parce que, écoutez,
ou une combinaison de plusieurs facteurs.
Je pense que ça doit être, c'est plutôt ça, je pense, ça m'a donné dans l'histoire.
C'est
ce
qui arrive. Hein?
Ouais, c'est fait 30 millions d'années, peut-être mort de vieillesse
aussi.
Mais on sait tous qu'ils sont revenus puisqu'ils les ont ramenés dans Jurassic Park.
Ouais. Mais imaginez-vous, là, c'est parce que si tu nourris d'une baleine, les baleines, à un moment donné, là, tu sais, ça... Il n'y en a pas 25 millions.
Non,
là,
effectivement, c'est ça.
Peut-être qu'il y en avait plus à ce moment-là, mais à un moment donné, là, tu sais, ça...
Pas de stockage de baleines suffisant. Oui.
Pour... Merci beaucoup, Serge. Okay. Oh, ça rappelle des souvenirs d'un énorme requin. Oh mon Dieu, des cauchemars que les gens de ma génération ont fait quand on était petits. Je vais vous amener complètement ailleurs. Je vais vous parler d'une figure de proue chez les Inuits. Marceline Picard Canapé reçoit l'Ordre du Canada. C'est un article que j'ai pris dans l'hebdo régional Le Manique et qui est signé Steve Paradis. Marceline Picard Canapé, hein, un nom très facile à prononcer, on en profite quand ça arrive, a reçu le grand honneur qu'un citoyen canadien, le plus grand honneur qu'un citoyen canadien qui n'est pas militaire puisse recevoir. La pionnière Inoue dans les domaines politiques et de l'éducation a été reçue membre de l'Ordre du Canada le 5 juillet lors d'une cérémonie tenue à la Citadelle de Québec. Pour ceux et celles qui l'ignorent, Mme Picard Canapé est une figure de proue de la communauté de Pessamite et est considérée comme une sommité dans le monde de l'éducation parmi les Premières Nations. Longtemps directrice d'école, elle a notamment implanté l'enseignement en langue inoue pour les jeunes de la communauté. L'engagement de Marceline Picard Canapé a également emprunté le chemin parfois chaotique de la politique. Elle fut notamment la première femme à être élue conseillère à Pessamite et ensuite chef durant 4 ans où elle a imprimé sa marque. J'ai réfléchi avant de dire oui à recevoir l'ordre. C'est un bel honneur, bien sûr, mais je le prends pour l'ensemble de la communauté, pas seulement pour moi, a lancé la récipiendaire que Le Manique est allé rencontrer à sa résidence de Pessamite. Dans tout ce que j'ai toujours eu comme motivation, j'ai toujours eu comme motivation d'ouvrir les portes aux jeunes, de leur dire qu'il n'y a pas grand-chose d'impossible, même si on est autochtone. Marceline Picard Canapé est championne de l'éducation des Autochtones, mentionne-t-on dans le texte d'intronisation à l'ordre de Mme Picard Canapé. Elle a ardemment prôné l'utilisation des langues autochtones dans le milieu d'éducation, ce qui a mené à la normalisation de l'Inou montagnais. Première femme à faire partie du conseil de bande de la nation Inou de Pessamite et à être élue chef, elle a su inspirer les nouvelles générations de dirigeants autochtones, peut-on aussi lire. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Marceline Picard Canapé n'avait jamais anticipé qu'elle deviendrait une personnalité connue et reconnue, autant chez les Inou que chez les Allochtones, et qu'elle en ferait autant de son illustre carrière. Tout ce que j'ai eu, ça m'est comme arrivé sur un plateau. Je n'ai jamais couru après ça. J'avais fait des études pour être enseignante, pas plus. Ce sont les événements qui ont fait en sorte que j'en ai fait plus, finalement. confie la septuagénaire à la fois humble et éloquente. Cette humilité se manifeste également lorsqu'elle souligne aux journalistes qu'on lui prête, à tort selon elle, le titre de première institutrice Innu au Québec. « Je suis sûrement la première sur la Côte-Nord, mais pas au Québec. Il y avait une fille qui enseignait avant moi à Pointe-Bleue, c'est-à-dire Mashtoyatch. » Après 16 ans à enseigner à l'école primaire de la communauté, Mme Picard-Canapé devient directrice de ce qui s'appelait alors l'école primaire et secondaire de Betiamite. Un beau matin, alors que j'étais en congé de maternité, le chef Léonard Paul et des gens du ministère des Affaires indiennes sont débarqués chez moi pour me demander de prendre la direction de l'école. C'est comme ça que ça a commencé. La nouvelle membre de l'Ordre du Canada se rappelle d'avoir reçu beaucoup d'aide des professeurs afin de faire sa place tout en apprenant les rouages du poste, l'entretien des loyers des professeurs de l'extérieur, faisant notamment partie des tâches. À travers tout ça, elle a largement contribué à la création de matériel pédagogique adapté à la langue Innu. Ses efforts ont aussi débouché sur la publication du premier dictionnaire Innu-français. Ce fut des années vraiment intéressantes. On partait de zéro, on a tout monté et ça a réussi. Se remémore celle qui dit avoir toujours été guidée par le bon sens dans ses actions. Outre un intermède de 4 ans, la septuagénaire aura été impliquée de 1959 à 2006 dans le monde Innu de l'éducation, autant à Pessamit qu'à Ouachat-Malioténam et Manawan. Elle a été directrice d'école ou directrice de l'enseignement durant 35 ans. J'ai eu la chance de toujours décrocher de bons emplois et j'ai vraiment eu une belle carrière, conclut-elle. Pour la petite histoire, le cinéaste Denis Villeneuve a été fait officier de l'ordre au cours de la même cérémonie. Le musicien Alain Caron, du Zeb, également été reçu membre de le 5 juillet. Créé en 1967, l'Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Ben oui, Alain Caron, ça vient pas ça, je vous ai appris quelque chose, alors peut-être que vous pourrez nous en parler, où c'est passé sous votre radar.
Absolument, non, j'avais ça.
Parce que c'est toujours une bonne occasion de parler du Zeb.
Oui.
Merci beaucoup pour avoir écouté la première demi-heure de cette émission. Je vais allonger l'émission. C'est ça, on vous revient avec plein d'autres sujets, tout aussi hétéroclites, après une courte pause.
Vous écoutez les voix de service.
On vient d'entendre la pièce « Oh Darling » des Beatles, une pièce composée par Paul McCartney qui est parue sur un des albums qui est paru dans la dernière année d'activité des Beatles, sur l'album « Abbey Road », album bien connu avec la pochette où on voit les quatre membres des Beatles traverser la rue, l'autre côté des studios Abbey Road.
Qui est un indice d'ailleurs.
Mais oui, étrangement, c'est ce que je me rappelle, moi c'est Paul qui est nu-pied.
Voilà un des indices.
Il y a eu tellement de théories qui ont été élaborées sur cette photo-là.
C'est une rumeur qui est apparue dans les années 60 et j'étais très surpris de trouver ça dans le Rolling Stone magazine la semaine dernière. Un article qui est paru le 3 août. Qui
2018,
s'intitule,
là.
Oui, en 2018, qui s'intitule « Paul McCartney est-il mort? » Alors là,
c'est vraiment
là,
intéressant.
On a un problème.
Vous attirez
notre attention.
Je confirme
que Félix Leclerc est mort.
Suscitez
mais
notre intérêt.
Paul McCartney, ça, c'est rien de moins. En tout cas, donc, ça commence en disant est-ce qu'un certain Billy Shears a remplacé le bassiste des Beatles depuis sa mort dans un accident de voiture en 1966?
Wow.
Ici, on dit pas vraiment non, mais il y a eu quand même beaucoup de rumeurs. Plus le nom est gros et plus la théorie est bizarre, bien entendu.
Évidemment.
Au même titre que ses comparses, Paul McCartney est devenu mondialement célèbre en tant que membre des Beatles et sa notoriété n'a jamais fléchi depuis la séparation du groupe en 1970, pas longtemps après Abbey Road, effectivement. Mais certains adeptes de la théorie du complot prétendent que le Paul qu'on connaît et qu'on aime tous n'est pas Paul, mais Fall, F-A-U-L, un faux Paul McCartney. D'après certaines légendes, le vrai Paul McCartney n'est pas ce septuagénaire qui continue d'embraser les stades, mais serait mort très tôt dans la matinée du 9 novembre 1966, alors que sa voiture glissa sur une route verglacée pour aller percuter un poteau. Ses adeptes pensent que John Lennon, George Harrison et Ringo Starr étaient tellement inquiets de l'impact qu'aurait sa mort sur l'immense succès des Beatles à l'époque, qu'ils auraient étouffé l'affaire en le remplaçant par un sosie parfait nommé Billy Shears, qui lui ressemblerait aussi bien physiquement que dans sa gestuelle et même sa voix. C'est quand même tout un hasard.
Oui, c'est vraiment
une personne de
tout aussi talentueux
de ce
parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses.
Puis on en trouve un autre
lui-même.
Pareil sur la planète, puis britannique en plus. En tout cas, mettons que les chances étaient assez faibles. Les plus fins observateurs ont noté des différences entre de vieilles photos de Paul et de plus récentes, prétendant que la forme du menton ou le placement des oreilles sont des preuves irréfutables.
Ce serait pas plutôt la vieillesse qui...
La vieillesse ou la chirurgie. Anyway, en tout cas, il y a peut-être d'autres raisons. La forme et la taille de la tête de Fall seraient également radicalement différentes de celle de McCartney.
Ah,
certains
ouais.
prétendent même que le Shears est un orphelin qui aurait gagné un concours de sosie. Ça arrange bien les choses, hein, s'il n'y a pas de parents qu'on peut interroger.
Ça, c'est assez pratique,
ça,
en effet.
C'est très pratique.
C'est
ainsi que l'aventure des Beatles a pu se poursuivre, continuant à écrire des hits sans encombre, leur secret bien gardé de la face du monde. En plus, il avait le talent d'écrire des chansons aussi bien que le vrai Paul McCartney.
C'est plausible.
Assez, ouais, quand même. Mais d'après les plus fins enquêteurs, Lennon, Harrison et Starr finirent par culpabiliser et commencèrent à laisser des indices sur la disparition prématurée de leur ami via les jaquettes d'albums, voire même certaines chansons elles-mêmes. La célèbre pochette de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, celle où c'est très coloré.
Il y a quand même beaucoup de personnes sur cette pochette-là.
Oui. Sorti en 1967, donc après son décès, serait un énorme indice, les théoriciens n'y voyant non pas seulement une photo de groupe, mais des funérailles.
Ah,
ils pointent notamment du doigt la terre fraîchement retournée au premier plan, en avant.
Mm-hmm, c'est vrai.
Et les anciens Beatles, plus jeunes, parce qu'on voit les anciens Beatles en statue de cire, tout habillé en noir, et les nouveaux Beatles avec des costumes de fanfare
oui,
un peu.
Oui.
Donc, on voit les anciens Beatles plus jeunes habillés en noir et ces fleurs jaunes disposées en bas de la photo. Serait-ce une basse de gaucher? Parce que les fleurs qu'on voit, il y a quatre cordes après, donc ça peut indiquer une basse.
Mm-hmm.
Les fans adeptes de la théorie commencèrent à chercher d'autres indices dans les morceaux et finirent par trouver de bien sinistres coïncidences. L'une des plus célèbres se trouve sur Revolution No. 9 qui... Si elle est jouée à l'envers, je pense que c'est à cette époque-là que ça a commencé.
les fameuses théories de si on joue des choses à l'envers.
On entend des messages subliminaux. Ouais. Donc, si elle est jouée à l'envers, comporterait une partie ressemblant fortement à un accident de voiture, ainsi qu'une voix qui semble dire « He hit a pole, better get him to see a surgeon ». On peut traduire par « Il a frappé un poteau, il faut l'amener chez un médecin ». Mais pour l'histoire, il faudrait spécifier ici que Revolution No. 9 sur l'album blanc, c'est un montage qui est enregistré à l'envers au départ. C'est un collage de toutes sortes de trucs déjà enregistrés à l'envers. Mais c'est sûr que si on le fait jouer dans l'autre sens, on retombe.
Ça, c'est pas une des chansons que si on n'a pas pris de drogue, on peut pas vraiment l'apprécier.
Absolument.
Quand on
l'écoute. Oui, oui. Non, parce qu'effectivement, c'est un
trip. Je crois me souvenir. Non, mais parce que si on écoutait ça à jeun, là.
Oui, non, c'est vraiment un trip expérimental, cette pièce-là. Personne ne s'en souvient. Et ce n'est pas tout. Jouer I'm So Tired, ce qui est une de Lennon. Jouer I'm So Tired à l'envers également, et une voix semble dire Paul is dead, miss him. Paul est mort, il me manque. Sauf que si vous faites jouer n'importe quoi à l'envers, vous allez entendre toutes sortes de trucs.
Excusez, mais comment on fait pour jouer ça à l'envers?
aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'avec des fichiers Wave ou MP3, souvent, on peut avoir un programme qui a une option reverse, tout simplement. À l'époque, il fallait prendre le vinyle. Je pense pas
de fonction à l'envers. Sur le...
Avec les trucs digitalisés, c'est plus simple.
Bon.
Donc, Paul est mort et ralentissez Strawberry Fields Forever et vous entendrez John dire I buried Paul, j'ai enterré Paul. Même si lors d'une interview il expliquera avoir dit cranberry sauce. Pas vraiment, puis on sait pas ce que ça vient faire dans la chanson.
J'avoue que la réponse est pas vraiment crédible. Pourquoi il aurait voulu dire cranberry sauce?
Ça n'a pas rapport avec la chanson. Anyway. Il y a également la non moins célèbre pochette de l'album Abbey Road, dont on parlait tantôt, où les quatre Beatles traversent la route pour se rendre à leur studio. De prime abord, rien de bien choquant sur cette photo. Mais pour les théoriciens les plus observateurs, il s'agit pourtant bien de la preuve, pas n'importe quoi, pas un indice, la preuve que McCartney est bel et bien mort. On y voit John tout de blanc vêtu à la manière d'un prêtre. Moi, à mon époque, les prêtres étaient habillés en noir, mais
non, c'est ça, moi non plus. Peut-être un prêtre hindou.
Mettons qu'on transforme.
Les pères blancs, la congrégation des pères
probablement.
Blancs.
Probablement.
Ah, dans ce bois, peut-être. Okay, oui.
Donc, un prêtre blanc et Ringo en noir, tel un porteur de cercueil. Et enfin, George fermant la marche tout en jeans, en bleu, qui serait le fossoyeur. Faut aller chercher ça pas mal.
J'avoue.
Et Paul, si le bassiste marche pieds nus, c'est toujours d'après les adeptes, parce qu'il est mort. Parce que tout le monde sait que les morts marchent pieds nus.
Oui.
C'est très connu. Donc, autre indice, le morse noir que l'on voit sur la pochette de leur album de 1967 et dans la vidéo de la chanson aussi, Magical Mystery Tour. Toujours d'après les plus croyants, le morse noir représenterait la mort dans certaines cultures scandinaves. Et c'est bien dans ce costume que McCartney est affiché. Quand il chante la chanson « I am the walrus », il est habillé en morse. Autre étrange coïncidence, et en est-ce vraiment une, Lennon chante sur le titre Glass Onion, qui figurera sur le White Album quelques années plus tard. Well, here's another clue for you all. The walrus was Paul. Voici un autre indice pour vous. Le morse, c'était Paul. Puis ça, c'est vrai, si vous écoutez la chanson, il dit ça exactement.
Mais peut-être qu'ils ont décidé d'encourager un peu.
John Lennon, il a joué beaucoup avec ça quand les rumeurs sont parties.
Ah oui,
il a mordu là-dedans, puis il a dit, vous en voulez des indices?
On va vous en
je vais vous payer à test, je vais vous amuser. Donc, en ce qui concerne Paul lui-même, ou devrions-nous dire Fall, ces rumeurs ne l'ont jamais dérangé plus que ça. À ceux qui préfèrent envisager ça comme des rumeurs, je n'ai rien à dire, déclarait-il à Life Magazine. Et ça, je trouve, ça porte à confusion.
Oui, à ceux qui préfèrent envisager ça comme des rumeurs, autrement dit, ça serait vrai, en fait.
Ouais, en tout cas, lui, il termine en disant « Je ne veux pas le gâcher leur plaisir. »
Et vous allez vous aussi nous ramener dans le passé, Serge, mais un peu plus loin quand même.
Oui, 1600 quelque chose. C'est la redécouverte du plus ancien manuscrit jamais retrouvé de Champlain.
Et d'après moi, il est mort, hein, Champlain?
Oui, un petit peu, oui. Un article de Gabriel Bélan dans la presse de lundi, Presse Plus de lundi. Alors, un mystérieux manuscrit de 1602 qui détaille au bénéfice du roi les contours d'une future colonie française en Amérique, aurait-il été écrit de la main même de Samuel de Champlain, fondateur de Québec? C'est ce que croit l'historien français Éric Thierry, qui vient de retrouver le document inédit de 30 pages dans les archives de la Bibliothèque nationale de France. Monsieur Thierry va présenter sa trouvaille vendredi, dans deux jours, dans le cadre des rendez-vous d'histoire de Québec. La découverte n'est pas banale. Il s'agirait du plus ancien document retrouvé, écrit de la main de Champlain, l'autre étant une carte de la Nouvelle-France qui date de 1607 et qui est conservée à la Bibliothèque du Congrès à Washington. Les autres écrits de Champlain, ce sont des copies, soit des lettres écrites par un secrétaire. Des documents de sa main, il n'y en a que deux avec le manuscrit que j'ai retrouvé. Et le manuscrit est le plus complet, une trentaine de pages, explique M. Thierry, qui est un spécialiste de la Nouvelle-France et qui a édité les œuvres complètes de Champlain chez Septentrion. Le document en question nous offre un aperçu inédit des démarches qui ont mené à la colonisation française en Amérique du Nord. La lettre de 1602 ou de 1603, là, on n'est pas tout à fait
sûr. Moi, je pense que
c'est
clair.
En mettant une page, il a peut-être commencé à l'écrire en 1602.
Oui, il a commencé à Noël, le venu au jour de l'an.
Oui, c'est ça.
Alors, cette lettre précède le premier voyage de Samuel de Champlain dans le fleuve Saint-Laurent. Elle était adressée au roi Henri IV, qui était roi de France à ce moment-là, que raconte Champlain à son souverain. Il lui expose les différents scénarios pour l'établissement d'une colonie française en Amérique du Nord, explique Éric Thierry dans un entretien téléphonique. À cette époque, Champlain vit à la cour du roi Henri IV à Paris. Le roi l'a chargé de collecter toutes les informations disponibles pour l'Amérique parce qu'en 1602, on craint la reprise d'une guerre entre la France et l'Espagne. Henri IV aimerait bien créer une colonie française en Amérique du Nord, de laquelle les Français pourraient attaquer les colonies espagnoles, d'où viennent, comme on le sait, l'or et l'argent qui rendent l'Espagne particulièrement puissante à cette époque-là, poursuit l'historien. À la cour, Champlain a accès à la bibliothèque royale. Il peut donc consulter les cartes anglaises et hollandaises qui s'y trouvent. Ami du gouverneur de Dieppe, il fréquente également ce port normand et tend l'oreille aux récits des pêcheurs et navigateurs qui y mouillent. C'est avec tous ces renseignements qu'il écrit sa lettre au roi. Dans sa lettre, il mentionne quatre lieux possibles pour l'établissement d'une colonie française. La baie de Chesapeake, en Virginie, l'embouchure de la rivière Kennebec.
Il aurait dû s'en tenir à cette idée-là. Ouais.
L'embouchure de la rivière Kennebec ou celle de la rivière Penobscot dans le Maine et finalement la baie de Fundy.
Mais il n'y a pas Montréal là-dedans?
Eh oui. Le fleuve, ça, on y vient.
Moi, que je ne suis pas bonne en géographie, là.
Non, c'est vraiment plus bas, oui.
Ouais, c'est ça.
Le fleuve Saint-Laurent, où Champlain fondera finalement Québec en 1608, ne fait pas partie des candidats pour le peuplement. Mais l'explorateur suggère à Henri IV...
C'est Québec, en plus, qui était avant Montréal, bien sûr, parce que Montréal, c'était juste en 1942. Ouais.
Mais l'explorateur suggère à Henri IV que ce fleuve pourrait être utile aux Français en leur offrant un passage tant convoité vers...
Les Grands Lacs. Non.
Vers la Chine. On pensait que le Saint-Laurent amenait en Chine.
Mais oui, ben après avoir découvert l'Inde en Amérique, on voulait se rendre jusqu'en Chine.
Oui. Ben, c'est-à-dire qu'après les Grands Lacs, vous auriez pu creuser un canal à travers le Canada puis aboutir au Pacifique.
Ouais, oui, c'était pas loin.
C'est théoriquement possible.
Oui. Champlain est aussi convaincu que la rivière Saguenay mène à la Chine. Il va essayer... Oui, on était obsédé par la Chine à l'époque. Il va essayer de confirmer que dès son premier voyage en 1603, quand il va tenter de remonter le Saguenay.
Excusez-moi, mais je suis obligée de faire une... Est-ce que c'est pour ça qu'on a appelé la Chine, la Chine?
Le canal de la Chine?
Non, mais oui, le canal de la Chine, est-ce que c'était un clin d'œil à ça?
Il me semble que oui. La ville de la Chine. Mais là, je suis vraiment là...
En tout cas, vous ferez des recherches, puis vous
nous en parlerez. Oui, je vais regarder, oui. J'ai déjà lu quelque chose sur ça. il ne réussira pas à aller très, très loin, mais il va croire à cette hypothèse de toute sa vie que par le Saguenay, on peut rejoindre la Chine ou le Saint-Laurent. Pour ce qui est du Saint-Laurent, Champlain est persuadé que sa source se trouve dans le lac de Zubgara, un plan d'eau que l'on retrouve sur la carte de la fin du 16e siècle. Selon la théorie de l'explorateur, ce lac situé à l'ouest du continent donnait naissance à un fleuve qui allait se jeter dans le golfe de Californie. Un canal. On n'est pas loin.
Oui, c'est ça.
Éric Thierry va présenter le manuscrit vendredi à 14h à la Maison de littérature de Québec. L'historien précise avoir redécouvert le document, parce qu'il avait déjà été découvert. Un autre historien, Charles de la Roncière, l'avait repéré en 1904 et attribué à Samuel de Champlain. Mais comme il n'avait jamais vraiment travaillé sur Champlain, il ne l'a jamais publié. C'est donc un manuscrit qui n'a pas été exploité par les historiens canadiens comme Marcel Trudel, qui ne connaissait pas ce document. Éric Thierry caresse le projet de publier une édition critique du manuscrit au Septentrion. Voilà.
Merci. Et comme toujours, je vous emmène complètement ailleurs. Accessibilité des soins de santé, une marche en soutien aux Autochtones. C'est un article que j'ai pris sur le site de Radio-Canada, ici, Grand Montréal, et qui a été publié le 1er août, signé Raphaël Drouin. En 2011, Richard Mohar a dû quitter sa communauté de Manawan pour s'établir à Joliette, dans la région de la Naudière. Sa femme, alors atteinte de lupus, une maladie auto-immune, devait y recevoir des traitements de longue durée. C'est elle qui a inspiré Motetan Mamo, de Nation à Nation, une marche de 8 jours qui en est à sa 6e année. J'allais dire édition, mais 6e année. Richard Mohar souhaite sensibiliser la population à sa réalité, qui est aussi celle de bien d'autres Autochtones à travers le Canada. Il a donc créé en 2013 la marche Motetan Mamo, Marchons ensemble en Atikamekw, pour venir en aide aux personnes autochtones malades et à leurs familles qui doivent délaisser leur communauté afin de recevoir des soins de longue durée. Dans de nombreuses communautés autochtones, il n'est pas possible d'obtenir ce genre de traitement. Il faut donc se rendre en ville. Dans le cas de la communauté Atikamekw de Manawan, c'est à Joliette qu'il faut s'établir, soit à près de 200 km plus au sud. Santé Canada paie les 3 premiers mois dans une maison d'accueil pour personnes malades autochtones, raconte M. Moir. Après ça, il a fallu prendre un appartement, et une fois que tu prends un appartement, si tu quittes la communauté à long terme, tu perds tout. Tu ne peux pas non plus vendre ou louer ta maison dans la communauté puisque ça ne t'appartient pas. C'est la fameuse loi sur les Indiens. Aller vivre à 200 km de Manawan, c'est aussi laisser derrière toute une communauté. C'est difficile, raconte M. Moir. Dans la communauté, il y a beaucoup d'entraide. S'il te manque de la nourriture ou que tu as des besoins, la famille est toujours là pour te soutenir. En ville, c'est différent. On ne peut pas aller cogner à la porte d'à côté pour demander de l'aide. La marche Motetan Mamo est justement un moyen pour la communauté de se rassembler. Pour certains qui ont perdu des proches, c'est aussi un moment pour faire son deuil. Cette année, on honore à chaque étape une personne dialysée qui nous a quittés depuis le début de la marche de 2013. L'événement a un aspect d'ailleurs bien personnel pour M. Mohar et encore plus cette année. Pour la journée d'inauguration de la marche, le 28 juillet, les participants ont rendu hommage à sa femme, Colette Ottawa, décédée en mars. Petit encadré, Motetan Mamo, de Nation à Nation, se déroule du 8 juillet au 4 août. Donc, se déroulait du 8 juillet au 4 août. Les participants marchent pendant 8 jours sur une distance de 190 km de Joliette à Manawan. Donc, ça symbolise la distance que monsieur...
cherche son nom, là.
Mohar a dû faire quand sa femme était malade. Des rassemblements et des activités sont organisés dans d'autres municipalités le long du périple. L'année dernière, Richard Mohar a recueilli près de 20 000 $ en dons, un montant qu'il souhaite dépasser cette année. Je vous le dis tout de suite, j'ai cherché l'information, je n'ai pas réussi à trouver ce qui avait été amassé. Peut-être qu'il continue encore de comptabiliser les dons. Alors, fin de l'encadrer. Cette année, 48 personnes ont participé au lancement de la marche Motetan Mamo. Une trentaine ont suivi les 8 étapes du périple de Joliette à Manawan, en passant par Saint-Michel-des-Saints et Saint-Jean-de-Mata. De ce lot, des Autochtones, mais aussi des non-Autochtones. C'est un rapprochement des peuples, indique M. Mohar. Ce qui est important, c'est la sensibilisation. C'est à partir de là qu'on va trouver des solutions. Encore cette année, des élus se sont aussi joints au mouvement à certaines étapes de la marche. C'est le cas du député fédéral de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, et de la députée provinciale de la municipalité, Véronique Yvon. Richard Mohar estime qu'il y a une ouverture des élus pour trouver des solutions au problème de l'accessibilité des soins de santé aux Autochtones. Il formule toutefois une demande. On veut que le gouvernement nous reconnaisse comme des Autochtones à travers le Canada, pas seulement comme des Indiens sur des réserves. Et en terminant, à la suite de cet article, Service aux Autochtones Canada a tenu à faire quelques précisions. Une porte-parole indique que les Autochtones qui doivent se relocaliser en raison de soins de santé ne perdent pas leur statut d'Indien, mais seulement certains avantages. Dans certains cas, il est possible de faire une demande pour prolonger les prestations à l'hébergement sur une période de 6 mois ou un an, en plus des 3 mois déjà couverts par le programme du gouvernement. Serge.
Oui, dans la merveilleuse revue « Ça m'intéresse, histoire » de juillet août 2018, donc c'est fraîchement
très
sorti
récent,
des presses,
ouais,
oui.
C'est pas avait, de l'histoire, finalement.
Durant, je vais vous en parler l'autre, et puis durant les prochaines semaines. L'avez-vous comme au Moyen-Âge?
Oh. Non, je ne suis pas sûre que c'est recommandé.
Non, de.
On est curieux quand
alors,
même.
Aimeriez-vous fabriquer un savon médiéval?
Ah, ça, c'est pas l'affaire qui est avec du gras de porc.
Je vous donne la recette. Je pourrais vous l'envoyer par courriel, si vous voulez, ça me fera plaisir.
Ah non, ça va être correct. Mais allez-y.
Versez 20... Pour les auditeurs, là, vous m'envoyez un courriel, puis je vais vous le faire parvenir. Versez 5 litres d'eau dans un récipient recouvert d'un tissu fin.
Jusque-là, ça va.
Oui. Déposez ensuite sur le linge 2 kilos de cendre tamisée, idéalement de hêtre ou de chêne, de manière à ce qu'elle trempe dans l'eau. Faites chauffer jusqu'à obtenir un liquide sombre. Ajoutez 500 g de suif de bœuf.
Ah, de bœuf, je pensais de porc, c'est moins pire.
Mais je ne savais pas que le bœuf, qu'il y avait du suif de bœuf. Je pensais que c'était le suif de porc. Ah, ouais. Remuez jusqu'à ce qu'une mousse épaisse se forme à la surface. Récupérez-la et faites reposer dans un moule.
Ah, c'est la mousse qu'on prend.
D'après ce que je dis, oui. Récupérez-la et faites-la reposer dans un moule. Ben oui, ce serait la mousse.
D'accord.
Démoulez 24 heures plus tard et laissez sécher pendant au moins 2 mois. Ce savon n'aura pas d'odeur et sera un peu collant, mais il lavera.
OK. Je vous crois sur parole, Serge.
Donc, vous allez faire le test et nous venir avec ça dans 2 mois.
Oh, comptez-y, oui, comptez-y. Oui.
Mais moi, je vous parle de 3 films autochtones en primeur au TIFF. Le TIFF.
Toronto International Festival, Film Festival.
Film Festival, exactement. Alors, c'est un article qui est paru le 1er août, Radio-Canada avec la presse canadienne. 3 films réalisés ou produits par des Autochtones seront présentés en première mondiale au Festival international de films de Toronto cet automne. L'organisation du TIFF compte cette année faire rayonner les talents autochtones du Canada. Le film Edge of the Knife des réalisateurs autochtones Gwai Edensha, Aida, et Ellen Haig Brown, Nation des Tsilkotin, sera un des 3 projets autochtones présentés dans le cadre du festival. Il s'agit du premier long-métrage fait en Haïda, une langue parlée par des populations autochtones en Colombie-Britannique et en voie de disparition selon l'UNESCO. Pour leur projet, les créateurs ont recruté des membres de la communauté Haïda. La plupart des acteurs n'avaient jamais joué dans un film auparavant. Ils ont aussi dû apprendre à parler la langue pour les besoins de la production. Le long-métrage « Falls Around Her » de la réalisatrice Ojibwe Darlene Naponce fait aussi partie de la programmation de films canadiens. L'actrice métisse Tantu Cardinal, que l'on a pu voir dans le film à succès « Danser avec les loups hein, », ce fameux film. Moi, en tout cas, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il y avait plein de
Kevin
clichés.
Kevin Costner.
Oui. Et plus récemment, dans la série télévisée « Mohawk Girls », donc Tantu Cardinal est de la distribution. Et on pourra aussi la voir dans un autre film présenté au TIFF, soit « The Grizzlies », de la réalisatrice Miranda Depensier. Le long-métrage raconte l'histoire d'un groupe de jeunes étudiants inuits qui voient leur vie transformée par le sport d'équipe. La réalisatrice s'est associée aux productrices inuites Alethea Arnacook Barry et Stacy Aglock MacDonald pour réaliser le film inspiré d'une histoire vraie. Le Festival international du film de Toronto aura lieu du 6 au 16 septembre prochain. Alors, c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci, Daniel Lachance. Merci Serge Bradet.
Les plaisirs.
Je m'appelle Isabelle Falardeau et je tiens à vous dire de rester en onde pour écouter la belle voix de François Brodeur, qui sera en remplacement d'Hélène Denis à la barre du quotidien, des quotidiens.
Hélène n'est pas là.
Et non, elle est en vacances, bien méritée, évidemment. Alors, bonne journée à tout le monde et à la semaine prochaine.